BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Focus Retail sur BFM Business. Et au programme aujourd'hui, alors que plus d'un Français sur deux a un animal de compagnie, 84% d'entre eux le considèrent comme un membre à part entière de la famille, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et dépensent près de 1250 euros par an. Après le pic connu post-Covid, ce marché se stabilise. Comment se porte Max Iso dans ce contexte? C'est ce que nous expliquera son nouveau directeur général Vincent Doumer. Et puis dans le pitch de la start-up et puis avec notre expert, nous évoquerons le phénomène du pet parenting avec Bagan qui propose du mobilier haut de gamme pour les chats et les chiens. Mais vous verrez que finalement, c'est un peu plus pour les maîtres de ces animaux de compagnie. C'est Julien Évrard qui sera avec nous. Restez là, Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Vincent Doumer. Bonjour.
Bonjour Eva.
Bienvenue sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Max Iso. À mes côtés, notre expert retail cette semaine, c'est vous François. François Valadas, directeur des solutions Data France de Vusion. Alors Vincent, vous avez pris les commandes de Max Iso. C'est assez récent hein, puisque vous êtes arrivé en mars dernier. Un réseau Max Iso de 461 magasins intégrés en France. Hein, c'est bien ça.
On est passé même à 470.
470.
Régulièrement. Donc.
470, une enseigne qui fait partie du groupe Fresnap, présent dans 15 pays en Europe. Alors en France, il y a seulement une quarantaine de magasins qui proposent des animaux de compagnie. Alors justement, on va parler un petit peu de nos compagnons, puisque la canicule du mois de juin a quand même provoqué une hausse inquiétante de la mortalité des animaux de compagnie, des animaux domestiques, de l'ordre de 10%. Il y a des moyens pour limiter ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos magasins et d'un point de vue physique, mais surtout aussi dans les références que vous proposez?
Alors, tout à fait. Donc, c'est un point extrêmement important. On les propose de manière générale, de toute façon, pour toutes les saisons d'été. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'on propose habituellement. Et la première canicule que nous avons eue en mai nous a mis out of stock complètement sur tous ces produits dont je vais vous parler. Et donc, du coup, on a eu le temps de se réapprovisionner. Et heureusement, nous étions prêts, en fait, pour la canicule. Et là, on est en train de réapprovisionner au cas où il y ait une autre canicule qui
pour le ce week-end-là qui arrive. Qui est
et donc
en
ça a généré beaucoup de demandes en fait de la part des pet parents, des propriétaires d'animaux, sur des conseils, venir en magasin pour savoir en fait ce qu'il fallait faire. Donc c'est évidemment l'hydratation des chats et des chiens qui souffrent particulièrement dans ces périodes. Effectivement, donc tout un tas de produits, à la fois de produits hydratants. Donc par exemple pour les chats, c'est simplement proposer plutôt de la nourriture humide plutôt que des croquettes.
D'accord.
Et donc là, on a vu véritablement une explosion là-dessus. Et puis une explosion, par exemple, des ventes de, ben voilà, vous le voyez ici, de fontaines à eau, par exemple, ou de
meilleur
jouets.
Pour l'hydratation,
effectivement, qui sont en plus des outils qui sont connectés, donc qui permettent de gérer complètement bien tout ça, en fait, pour les animaux, avec un détecteur, en fait, de présence, qui permet, en fait, d'avoir l'eau la plus fraîche possible. Et puis, d'autres objets, en fait, qui peuvent être un petit peu plus anachroniques, mais qui sont importants, qui sont des jouets pour que les animaux en fait puissent jouer avec des produits frais. Donc vous remplissez ça par exemple d'eau froide, vous le mettez au congélateur et après l'animal joue avec. C'est simplement très très frais et ça permet évidemment en fait non pas d'hydrater mais de rafraîchir. Par exemple c'est des imitations de glace qui permettent d'être au freezer qu'on peut donner en fait aux animaux.
On peut donner des aliments congelés.
Ce ne sont pas des glaces au sucre évidemment mais c'est avec des aliments en fait adaptés complètement. Et puis ce qui a complètement marché, j'ai pas pu vous amener parce que pour le coup on est en complète rupture de stock. Ce sont des tapis rafraîchissant, voilà, pour les chiens et pour les chats.
De la même manière que les piscines, par exemple, gonflables.
Exactement.
Est-ce que vous notez, justement, qu'avec ces changements climatiques, les fabricants, les marques mettent de plus en plus, sortent de plus en plus de références, finalement, qui collent avec ces changements-là?
Beaucoup de nouveautés, effectivement, sur ces produits-là. Par exemple, les tapis rafraîchissants, ce sont des produits qui existent depuis une année, en fait. Il n'y en avait pas beaucoup avant. Voilà. En tout cas, ils se développent beaucoup. Donc, nous, on a la chance d'être en groupe, comme vous le disiez, avec 15 pays, donc on a la capacité de fabriquer nos propres produits avec nos propres designs, donc ça c'est intéressant, mais d'autres marques effectivement jouent aussi cette carte-là et nous proposent tous les ans et tous les mois de nouveaux produits autour en fait de cette saisonnalité-là. En tout.
Oui, parce que vous avez 14 marques propres, hein, 14 MDD, quelle place ça prend justement
Alors,
dans
chez nous c'est assez, moi je viens du retail, mais pas du retail animalier, et donc je découvre ça aussi, c'est 48% de nos ventes, les marques exclusives.
Ah oui.
C'est
quasiment la moitié.
Ouais, c'est ça. Donc c'est par exemple, c'est voilà, vous les voyez ici. Donc on va avoir en fait une gamme extrêmement. Donc là j'ai pris la notre gamme premium Gold, Select Gold qui va être souvent voilà, donc soit en produit en fait, je dirais standard. Mmh. Et après en fait, on va avoir toute une gamme aussi. J'aurai l'occasion peut-être de vous en parler tout à l'heure de gamme médicale en fait, beaucoup
oui.
plus
sur la santé. Santé
Bah non, mais parlons-en.
Effectivement, là vous abordez la santé d'un point de vue alimentaire, mais pas seulement. C'est quelque chose que vous prenez très au sérieux, notamment avec les vétérinaires, mais aussi avec l'assurance que vous développez.
Oui.
Ça participe à tous les services. C'est quelque chose vers lequel vous tendez.
Tout à fait. Donc c'est alors déjà toute la santé, l'écosystème autour de la santé est extrêmement intéressant. Donc en termes de produits, on a été les premiers à lancer des corners santé dans nos magasins, hein, véritablement, voilà, qui va regrouper en fait tous les produits autour de la santé mm-hmm. pour les chiens et pour les chats. Et puis effectivement, on a aussi du téléconseil qu'on propose gratuitement à tous les détenteurs de la carte de fidélité. Donc un téléconseil avec des vétérinaires en fait qui vont être disponibles 24/24 et qui vont pouvoir permettre de répondre en fait aux problématiques de nos clients
en visio directement
depuis la maison. Voilà, et ça c'est au-delà du conseil effectivement qu'on va pouvoir proposer aussi bien évidemment dans les magasins puisqu'on a du personnel extrêmement bien formé mm-hmm. et qui va permettre de répondre à ces problématiques-là.
François.
Ça allait être ma question justement sur l'impact que ça a sur la formation de vos employés.
Oui.
Quels sont les programmes que vous avez en place, comment vous voyez les choses?
Alors on est la seule animalerie de France à avoir une académie et ça moi j'y tiens beaucoup, c'est pas moi qui l'ai mise en place, elle existe depuis des années donc avec des formateurs qui arpentent en fait la France pour former directement dans les magasins. Et avec évidemment des diplômes à la clé, des diplômes internes, hein, somme toute, mais des diplômes en fait à la clé. Et par exemple, par an, on a à peu près 40 000 heures dédiées à la formation chez nous, considérant que c'est véritablement ce qui nous distingue de la concurrence, de la compétition qui est extrêmement forte. Et on considère aujourd'hui, et les clients viennent chez nous aussi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de bons conseils, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de services, ou que ce soit en termes bien évidemment aussi de tous les autres services qu'on va pouvoir leur apporter autour des vétérinaires pardon, et de l'assurance aussi.
D'accord. Alors, un mot quand même, Vincent, sur ce marché des animaux de compagnie qui a connu un boom hein, sur l'après-Covid, mais qui ralentit un petit peu. Comment se porte Maxiso dans ce contexte?
Alors, on a effectivement des chiffres en fait, et des croissances à double chiffre depuis le début de l'année sur un marché qui est effectivement peu mieux que stable. On va être sur le premier trimestre, il était autour de 1%.
1%, oui.
Voilà. Nous, on a la chance, effectivement, en fait, de pouvoir, grâce, je pense, à ce que je vous disais, en fait, des points de force au niveau, en fait, de la présence sur le terrain. Déjà, on a 470 magasins. Donc, on est présent partout en France.
Oui, vous voulez être à 20 minutes de chaque.
Exactement, 20 minutes de chaque client. Donc, ça, c'est le premier point. Le conseil qui nous aide beaucoup. Et donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on surperforme le marché. Donc, on est ravis. Et puis, on a une expansion aussi importante. On a ouvert 66 magasins en 2025. On va en ouvrir encore 65 cette année, peut-être même un peu mieux que l'année dernière peut-être, on va voir, mais en tout cas voilà, c'est notre objectif 65. Et la nouveauté, c'est que nous allons ouvrir en ville. Et
ça, oui,
c'est,
en centre-ville,
en centre-ville,
particulièrement.
Exactement.
Vous avez ouvert à Paris notamment
en
octobre 2025.
Oui.
Aujourd'hui, vous avez combien de points de vente en centre-ville?
On a pour l'instant uniquement, je dirais, 5 magasins urbains. On en a un qu'on a ouvert mercredi de cette semaine, qu'on a ouvert à Courbevoie, voilà, donc en proche banlieue parisienne. On va en ouvrir beaucoup dans Paris cette année. On va ouvrir 18 magasins urbains cette année. Donc voilà, c'est voilà pour.
Bah alors expliquez-nous pourquoi ce choix, pourquoi cette proximité. Qu'est-ce qui change avec un point de vente en centre-ville versus ce que vous avez en périphérie?
Alors ce qui déjà pourquoi? Donc effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui les clients des villes ne sont pas adressés par des spécialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes un client des villes, vous allez plutôt aller dans des magasins, des supérettes de proximité dans Paris ou dans Lyon ou voilà dans les villes. Il n'y a pas proprement parlé ou très peu d'offres donc d'animalerie, alors que c'est là où je pense que c'est des lieux où les clients à la fois ont les moyens et ont l'appétence pour justement acheter des produits un petit peu plus premium, des produits un petit peu plus autour de la santé et de gâter un petit peu plus leurs animaux de compagnie. Et donc on pense que véritablement, je suis persuadé que le marché il est là, et donc c'est pour ça qu'on va investir assez fortement les villes. L'idée sur les 260 magasins que nous allons ouvrir d'ici à 2030, il va y avoir une entre 80 et 100 magasins qui vont ouvrir en ville.
D'accord.
C'est pour montrer un peu l'importance du sujet chez nous.
Vous visez Paris, vous visez particulièrement les grandes villes. On passe de 11 000 références qu'on trouve dans un point de vente
exactement.
Classique à 2500 à peu
exactement.
Près.
Exactement. Oui.
Qu'est-ce qui change finalement aussi dans la fréquence d'achat des consommateurs? Est-ce que c'est comme pour la grande distribution par exemple? Est-ce qu'on y va plusieurs fois par semaine à la différence?
C'est exactement
de...
ça. Je retrouve exactement ce que, j'avais pu connaître par ailleurs avant, où on fréquente effectivement une animalerie, je dirais, dans des retail parks plutôt une fois par mois, alors que on voit en tout cas dans nos magasins à Paris en fait qu'il y a des clients qui peuvent venir deux à trois fois par semaine. C'est quelque chose de qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui est vérifié maintenant, et donc c'est extrêmement extrêmement intéressant.
Et ça change aussi le format des potentiellement des références.
Là on voit des petits formats, justement je les ai amenés sciemment ces petits formats, parce que sinon normalement c'est plutôt des sacs de 12 kilos qui est le standard, et là on va passer en ville évidemment sur des
formats plus petits, parce qu'on n'a pas forcément la place de stocker.
Exactement, les cuisines sont petites, les appartements sont plus petits, et donc voilà. Et puis le fait que ça soit lourd aussi, donc on a capacité en fait à transporter plus facilement aussi les produits chez soi.
François.
Et donc ça fait revisiter le catégorie management dans son ensemble pour vous enseigner.
Oui, tout à fait. En tout cas, en fait les produits qu'on va proposer dans nos magasins urbains sont différents. On va avoir les mêmes marques, on va avoir les mêmes produits en termes de recettes, mais en revanche, les packagings vont être différents. Et on va proposer aussi beaucoup plus de produits pour les chats en ville par rapport en fait aux magasins standards, puisqu'il y a beaucoup plus de chats en ville.
Il y a beaucoup plus de chats tout court.
Mais en ville, ils sont un petit peu plus choyés, on va dire.
Ah oui.
Et du coup, en fait, ils vont on va avoir une clientèle qui est quand même plus importante là-dessus, et beaucoup plus aussi de non alimentaires, puisque il va y avoir beaucoup de demandes autour en fait du couchage. On aura l'occasion peut-être d'en parler après avec le prochain invité dont vous aviez parlé dans l'introduction. Mais tous ces produits un petit peu plus design aussi qu'on va pouvoir proposer, et donc on doit être en matière de catégorie management un petit peu plus à la recherche de produits un petit peu plus design, un petit peu plus premium, effectivement, et qui vont permettre de nous faire des produits qu'on va avoir pendant un mois, qu'on va avoir sur Instagram, qu'on va devoir avoir. Ça change vraiment la donne.
D'accord. Par exemple,
la fontaine dont je parlais tout à l'heure, c'est une fontaine d'un fabricant français pour le coup, et avec laquelle on a collaboré dès le départ. En fait, on l'a lancé ça dans Ville d'abord, et puis maintenant on l'a dans tous nos magasins parce que ça a très très bien marché. Puis ça nous permet aussi d'être en laboratoire un petit peu plus intéressant sur les tendances.
De tester fait les nouveaux produits. La présence sur le e-commerce, par exemple, vous nous parlez de cette fontaine que vous avez testée d'abord en centre-ville. Est-ce que quand même, les clients de la périphérie peuvent le retrouver sur le site en ligne?
Tout à fait.
D'accord. Et alors justement, vous en êtes où du développement de l'e-commerce?
Alors l'e-commerce aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui est déjà en fait un significatif, je dirais. Mais l'idée aujourd'hui, en tout cas dans ma feuille de route, c'est de faire en sorte que toute la partie e-commerce soit un prolongement de l'expérience des magasins. Notre concurrent, on n'a pas envie en fait d'être face au pure player. C'est pas l'idée aujourd'hui en fait par rapport au positionnement de Maxizo, mais c'est être capable d'accompagner ce qu'on voit en magasin sur le conseil, sur plus d'omnicanalité, et être capable tout simplement avec nos stratégies online de pouvoir livrer en fait en ville en 20 minutes avec le quick commerce, livrer en fait en click and collect en moins de 2 heures, et puis être capable de livrer à domicile ou en relais colis dans toute la France. Et ça, on est en train évidemment en fait de renforcer ce positionnement-là, mais avec véritablement, j'insiste là-dessus, une chance énorme que nous avons. En fait, c'est à terme, on va avoir 700 magasins, enfin à la fin de la décennie, on va avoir en fait un site e-commerce qui existe déjà, qui va être qui va couvrir tous les besoins. Et voilà, je pense
Donc le maillage va quand même
s'étendre. On tue assez bien la concurrence dans ces cas-là, parce qu'on va être vraiment en tout cas, c'est notre objectif.
Vincent, vous restez avec nous, mais un mot quand même en 20 secondes. Vous étiez auparavant, on l'a dit un petit peu sans vraiment le dire, mais vous étiez directeur général de Franprix. Vous étiez, donc la proximité, c'est quelque chose que vous connaissez. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience et que vous installez au sein de Maxizo?
En tout cas, c'est pour conclure. En fait, moi, je crois en la force en fait des équipes, et ce que j'ai trouvé chez Franprix en termes d'expérience, en fait, c'est la capacité des équipes en magasin en fait à exercer en fait un rôle majeur. Et c'est pour ça que je vous parlais de formation dès le départ, etc. de nos personnels, c'est vraiment ça. Et puis deuxièmement, d'un côté un petit peu plus professionnel, c'est vrai que là, le fait de développer Maxizo en ville me plaît particulièrement, parce que j'ai tous les repères en fait qui me permettent effectivement en fait de tout de suite voir là où on peut adresser encore mieux les besoins des urbains et des habitants des villes.
Voilà. Merci beaucoup Vincent Doumer.
Merci, Eva.
Là, on passe sans plus attendre au focus de notre expert. Alors François, on en parlait un petit peu avec notre invité, mais depuis la poussée inflationniste post-Covid, les volumes de vente dans le secteur de l'animalerie stagnent. Pourtant, les magasins se multiplient en France. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ?
Alors, ça peut paraître effectivement contre-intuitif, mais le phénomène qu'il y a derrière ça, c'est un phénomène de valorisation du marché. Si on prend l'exemple de la nourriture, hein, le pet food, qui est le plus gros chiffre d'affaires dans une animalerie, c'était plus 1,7% de croissance en chiffre d'affaires l'année dernière, seulement plus 0,3% en volume, mais avec des prix stables. Ça veut dire que ça fait 1,4 point de valorisation du marché, ce qui est énorme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes surfaces alimentaires. Donc, on n'achète pas plus de croquettes, mais on achète des croquettes plus ciblées, plus, je dirais, plus complexes, plus riches, et donc plus chères.
Et plus chères, oui.
Et c'est lié au phénomène dont on parlait juste avant, hein, la pet parentalité, hein, où l'animal fait vraiment partie de la famille et donc est traité comme tel.
Comment est-ce que les enseignes captent cette nouvelle valeur ?
Alors, aujourd'hui, cette nouvelle valeur, elle va être beaucoup tirée par l'urbain, hein, c'est ce que vient d'expliquer Vincent, c'est-à-dire que les grandes surfaces alimentaires sont toujours majoritaires en part de marché sur ce marché de l'animalerie, mais les spécialistes progressent très fort et très fort dans cette nouvel univers de l'urbain où on a à la fois un besoin plus spécifique, on n'a pas des magasins qui sont la réduction d'un magasin de périphérie, ce sont vraiment des concepts marchands à part entière avec un assortiment à part entière spécifique pour cibler ce public urbain un peu aisé qui a les moyens de se le payer.
Et au-delà du format qui change, à l'intérieur des magasins, vous venez de l'expliquer, effectivement, tout change, puisque c'est un nouveau concept. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai changement de modèle ?
Oui, parce que ça a été très bien aussi expliqué par Vincent juste avant, c'est que on vend des produits, certes, mais on veut créer un relationnel fort de l'émotion avec les clients, hein, parce qu'il y a une forte émotion autour de l'animal, et donc ça va passer par la partie médicale et santé, des parapharmacies, par des services comme le Click and Collect en moins de 2 heures, par des programmes d'abonnement. Bref, on cherche vraiment à fidéliser le client.
Merci beaucoup François, sans plus attendre, on passe au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Julien Evrard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus Retail. Alors, vous êtes le fondateur de Bagan, que vous avez créé en 2022. Alors, justement, on parlait un petit peu de l'ère du pet parenting. Eh bien, vous insérez vraiment bien dans ce mouvement. Enfin, c'est d'ailleurs l'ADN de Bagan, puisque vous proposez du mobilier qui répond aux attentes des animaux, mais surtout, et finalement, quand même, c'est très important de le dire, mais surtout aux propriétaires des animaux de compagnie.
Alors tout à fait. Alors je dirais pas surtout aux propriétaires. Je pense que c'est en tout cas l'ambition de Bagan, c'est de réinventer effectivement les équipements pour les animaux, pour à la fois répondre au bien-être animal. C'est la première préoccupation de leurs propriétaires, mais sans forcément faire de compromis avec leur style de vie à eux. Et effectivement, donc on a commencé par répondre à une de leurs problématiques, qui était de se dire qu'ils voulaient avoir le meilleur pour leur animal, mais aussi avoir des choses qui étaient sympas dans leur salon. Et donc on est venu réinventer sur un aspect plutôt esthétique pour venir proposer en fait du mobilier qui va venir s'intégrer avec harmonie dans leurs intérieurs.
Alors justement, qu'est-ce qui change véritablement là si vous nous regardez à la télévision, vous voyez, donc on voit des niches, on voit des gamelles qui s'insèrent effectivement très très bien dans les intérieurs. Qu'est-ce qui change véritablement pour l'animal finalement ?
Absolument rien.
C'est-à-dire que c'est le même confort.
Exactement, tout à fait. Donc on est vraiment parti du besoin premier du propriétaire qui est sa préoccupation, c'est de faire en sorte que son animal, il est le meilleur. Donc on garantit aujourd'hui cela par des couchages, si on prend l'exemple des couchages qui sont orthopédiques, qui sont garantis sans produits chimiques, de façon à pouvoir avant tout garantir leur confort. Et on est venu simplement réinventer les codes en y appropriant les notions de déco et de design, puisque les Français adorent leurs animaux, mais ils adorent aussi la déco. Hein, 89% des Français disent adorer la déco. Et donc, on est venu rajouter finalement ces codes déco-mode.
De déco. Donc, ça vous oblige quand même à suivre les tendances de la déco, un peu comme, là, on voit une niche qui peut être assortie à son canapé d'intérieur. Donc, vous suivez les tendances déco, finalement.
Exactement. Alors, pour la petite histoire, c'est que moi, je viens du monde du mobilier design. Donc j'ai baigné dans le monde de l'habitat pendant des années, et donc effectivement on vient se réapproprier les codes de la mode, de la déco, pour être capable de suivre ces tendances-là. Cette année, on a lancé en tout début d'année une collection qu'on a appelée Paris Sauvage, qui avec des imprimés en zèbre et léopard, qui venait répondre à une tendance de la mode sur ce type d'imprimés.
Je vois que Vincent Doumer, vous acquiescez. Vous, c'est quelque chose que vous ressentez aussi chez Maxizo, cette appétence pour des choses plus premium, plus jolies, plus design.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment en fait une tendance de fond depuis, je dirais, 2 ans. Où on sent en fait un besoin en fait de nos clients, et notamment avec l'ouverture de nos magasins en ville, et donc on est encore plus confronté à ça effectivement, où il y a peut-être une sensibilité supérieure en fait au design, au besoin en fait d'avoir les derniers bons produits à la mode, etc. Et donc oui on le sent tout à fait, et d'ailleurs nous dans nos marques exclusives qu'on va proposer dans nos magasins, on a beaucoup de produits qui sont de plus en plus design, et qu'on essaie en tout cas en fait d'être à la hauteur en fait de ce que vous proposez. Mais voilà,
en revanche là ça s'accompagne aussi d'un prix qui est plus élevé, puisqu'on est autour de 160€ pour une niche. Ça reste quand même un positionnement prix élevé.
Tout à fait. Ce qui est important de comprendre, parce qu'on parle de mode, et il y a un point qui est hyper important aussi dans l'ADN de la marque, c'est de faire en sorte de pas tomber dans le côté un peu fast fashion. On n'est pas là pour proposer des produits qui vont être jetables. Mmh. On y a inclus aussi une vraie durabilité de nos produits, donc avec une vraie démarche RSE, au-delà de la provenance de fabrication qui, chez nous en tout cas, est à 99% européenne. C'est de s'assurer qu'on ait aussi les bons matériaux et de faire en sorte que le panier, si on prend encore une fois l'exemple du panier, ils sont chez nous déhoussables, mais on peut aussi à l'avenir se dire bah tiens, peut-être que le motif léopard ou zèbre que j'ai acheté l'année dernière,
je m'en lasse
un petit peu,
mais
je peux racheter une housse indépendamment pour se dire bah effectivement peut-être qu'entre l'été et l'hiver je peux avoir une housse différente, mais on n'est pas obligé de changer le panier, de jeter le panier. Donc la notion de prix, elle tient aussi compte du
mais
fait.
Mais la housse
que...
coûte combien par exemple?
C'est à peu près entre 80 et 100.
Ah oui, ça reste...
Alors, jusqu'où comptez-vous diversifier votre offre et votre proposition aussi de canaux de distribution? Parce qu'il y a plein de monde qui peuvent être intéressés, comme l'hôtellerie, etc. Comment vous voyez les choses?
Ouais, tout à fait. Alors déjà, sur la partie aujourd'hui offre, on a effectivement beaucoup d'idées pour pouvoir suivre, en tout cas, les pets parents dans leurs habitudes. On parle de ne pas faire de compromis sur leur style de vie. Donc aujourd'hui, on s'adresse à l'intérieur, l'aspect déco. Mais on sait aussi, par exemple, que les pets parents... partent notamment de plus en plus en voyage avec leurs animaux. Donc on travaille sur ces solutions-là. Indirectement, on a commencé avec l'hôtellerie avec lequel on travaille depuis près de 2 ans, parce que les hôteliers sont de plus en plus en fait confrontés au fait que les clients viennent avec leurs animaux à l'hôtel et qu'ils étaient très mal équipés pour pouvoir les accueillir de la meilleure des façons. Donc on vient les accompagner et on continue aujourd'hui de travailler sur ces solutions-là. On était, je prends un petit exemple, mais sollicité par une marque française de vélo électrique qui nous a contactés pour être capable de travailler sur la confection d'un panier qui pourrait s'adapter à le transport du chien en vélo.
J'ai une question, Vincent, sur ces nouvelles marques, ces jeunes startups qu'on voit arriver. Et donc là, on est sur du mobilier, du design, mais il y a aussi beaucoup de marques sur l'alimentaire. Comment est-ce que vous allez sourcer ces jeunes marques au sein de Maxizo?
On a une équipe de catégorie manager en France, évidemment, qui vont regarder toutes les tendances de conso, beaucoup Instagram, les réseaux sociaux aussi, pour voir un petit peu les dernières tendances et essayer d'obtenir assez rapidement ces produits. Puis on a la chance, dans les 470 magasins, de pouvoir tester dans certains magasins, on regarde comment ça fonctionne et puis après on est capable d'aider à ces entreprises à se scaler un petit peu et puis à avoir un premier gros business et puis continuer après leur propre chemin. Mais c'est vrai qu'on est assez friands de ce type d'expérience aussi. En tout cas, je trouve que ce type de partenariat est très, très intéressant.
Il y a une dimension aussi intéressante. Vous disiez, Julien, vous êtes made in Europe. On voit aussi cette appétence pour le made in France, finalement, de plus en plus. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans vos rayons, par exemple?
Oui, on a beaucoup de produits alimentaires qui sont fabriqués en France. On va avoir en fait aussi sur la partie non alimentaire. Après, la contrainte, et on la connaît tous, ça va être en fait le positionnement tarifaire. Et donc, du coup, forcément, ça ne peut pas représenter une masse importante des produits qu'on va vendre dans nos magasins.
Julien, il nous reste moins d'une minute, mais globalement, vous êtes présent essentiellement en ligne. Vous développez aussi le B2B, donc avec les hôtels. Est-ce que vous commencez à être présent aussi dans des concept stores ou dans des magasins spécialisés?
Alors oui, à la marge. Aujourd'hui, c'est une vraie ambition de la marque demain de pouvoir être distribué dans du retail physique. Donc, on est sollicité par plutôt des concept stores canins de plus petites échelles qui nous sollicitent pour pouvoir référencer la marque. Donc, on a aujourd'hui une quarantaine de points de vente en France et en Europe, parce qu'on est aussi sollicité par des pays européens. Et c'est l'ambition de la marque. Maintenant, chaque chose en son temps. Difficile aussi d'adresser tous les sujets.
Oui, bien sûr.
Mais avec plaisir aussi pour peut-être discuter avec Vincent des opportunités qui pourraient être chez Maxizo.
Et vous aurez le temps. Mais sans plus attendre, on passe maintenant à l'actu de la semaine. François, avec la Coupe du Monde, ça fait déjà du business en plateau. Avec la Coupe du Monde, on voit revenir en force les opérations marketing autour de la bière, des chips ou encore des téléviseurs en grande surface. Est-ce que ça signifie que le foot, c'est redevenu un vrai levier de relance de la consommation?
En tout cas, c'est l'objectif des enseignes, c'est ce qu'elles recherchent. On a quand même 50% des Français qui déclarent vouloir suivre activement la Coupe du Monde. Donc ça fait quand même un terrain de jeu de consommation qui est considérable. Même si cette année, on est dans des conditions un peu moins bonnes qu'il y a 4 ans, où on avait une forte croissance du pouvoir d'achat. Cette année, il est plutôt en léger recul. Ça veut dire que pour tirer son épingle du jeu, il va falloir investir pas mal en publicité, en promotion. Et ça tombe bien, puisque 88% des annonceurs nous disent qu'ils vont augmenter leurs dépenses publicitaires sur la période.
Et comment les enseignes, comment les magasins essaient de capitaliser là-dessus? Ça se joue forcément dans les rayons avec la PLV, mais pas seulement.
Pas seulement. Alors, je vais citer deux leviers principaux. Le premier, c'est tout ce qui est autour de la rareté, de la collection, du produit collector, et sur tout type de produit. Ça peut être le fameux maillot extérieur de l'équipe de France vert qui est tombé en rupture partout, jusqu'à des produits comme les chips avec Lay's qui a sorti 40 goûts spéciaux pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la partie convivialité, puisque 76% des Français nous disent qu'ils vont regarder les matchs en groupe, donc sur l'alimentaire, les gros formats, et sur les téléviseurs, vous en parliez Eva, c'est des grands formats là pour le coup, avec Nielsen IQ qui nous dit que 24% des Français sont prêts à changer de télévision pendant l'événement.
Oui, on prévoit 85 000 téléviseurs, donc c'est un pari hyper important pour les distributeurs, mais est-ce qu'il est gagné ce pari ou c'est encore incertain?
On en reparlera le 19 juillet parce qu'en fait c'est tout le cœur du problème, c'est que tous ces plans de communication, de promotion, ils sont valables tant que l'équipe de France est qualifiée. Donc pour l'instant tout va bien. Si on prend le premier match contre la Côte d'Ivoire, c'était 2,6 millions d'euros d'additionnel sur les bières. En 2018, le jour de la finale, c'était 111 millions d'euros d'additionnel, et avec un effet de rémanence pendant tout un mois, 2% de croissance. Donc clairement, le commerce se joue sur le terrain, et ça fait qu'aujourd'hui, les enseignes et les industriels sont de fervents supporters des Bleus.
On espère que votre chronique portera bonheur à la France, puisqu'elle joue ce soir, samedi soir. Vous serez devant votre écran tous, j'imagine. Ou peut-être dans un bar.
Devant un écran.
On y sera tous. Merci à tous d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci Vincent Doumer, merci Julien Evra. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous de Focus Retail. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent match.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.